L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et rediffusée à 18h. Et aujourd'hui, un voyage immobile, ou presque, un voyage dans le monde entier, depuis Brest, depuis une exposition et un projet que nous avons suivi depuis quelques temps. Notre invité, vous le connaissez, il est ethnologue-photographe. Benjamin van der Leek s'intéresse aux populations venues d'ailleurs qui investissent un nouveau territoire, quel qu'il soit. Et comme Benjamin vit dans le Finistère, eh bien il s'intéresse à Brest. Brest, la cosmopolite, nous a-t-il montré et raconté. Les personnes venues d'ailleurs ont choisi avec lui une vue de Brest qu'elles apprécient, qu'elles aimeraient montrer à leur famille pour leur présenter la ville. Benjamin en a fait des cartes postales, c'était le projet Mes chers parents, dont on a parlé dans cette émission. Et voici à présent... Elle est si belle à voir, c'est le titre de cette nouvelle exposition présentée à la médiathèque Geoffourne Europe de Brest, ou plus exactement autour de la médiathèque en extérieur, donc pas besoin de passe sanitaire pour la regarder. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Donc, est-ce qu'on peut déjà revenir sur le contexte? Parce qu'en fait, cette expo, elle s'inscrit dans une opération plus générale?
Exactement, ça s'inscrit dans une initiative un peu plus longue, commencée déjà sur la rue Jean Jaurès dès 2019 et qui s'est continué avec ces cartes postales justement où j'invitais des Brestoises et Brestois venus d'ailleurs à nous présenter leurs cartes postales ou à réaliser leur carte postale idéale de Brest qu'ils ont envie d'envoyer à leur famille. Et donc comme ça on a une cinquantaine de cartes postales de vues différentes de Brest qui ont été réalisées, des témoignages qui avaient été réalisés autour de ces lieux choisis. Et on s'est dit que tous ces témoignages étaient une matière assez extraordinaire aussi pour renouveler ou réaffirmer un regard sur Brest, d'une ville appréciée et d'une ville décrite, on va dire sans chauvinisme, parce que ce qu'ont de commun chacun et chacune des participants, c'est qu'ils ne viennent pas de Brest et donc ils ont découvert leur ville sans l'avoir étudiée dans les livres, sans l'avoir connue auparavant. Et donc c'est comme ça que cette initiative est née et on a souhaité donc les associer à nouveau, tous ces participants, leurs amis aussi qu'ils souhaitaient, pour vraiment construire l'exposition le plus collectivement possible, donc en associant aussi bien en plus une commissaire d'exposition et une graphiste dès le début du travail, afin d'avoir tous les éléments idéaux pour réussir à faire une belle exposition partageable par le plus grand nombre.
Et là, l'occasion, c'était cette opération Un œil sur le monde qui est lancée par les médiathèques de Brest, c'est ça, qui ont lancé ça?
Exactement. Il y a aussi donc cette conjonction qui s'est faite avec les médiathèques de Brest, à savoir toute une opération qu'ils mènent depuis le mois de novembre là, 2021 jusqu'à février 2022, qui s'appelle Un œil sur le monde, donc un certain regard sur le photojournalisme et le journalisme, la photographie de reportage. D'une certaine manière. Donc souvent, le photojournalisme, ça va être associé très rapidement à journaliste de guerre, souvent. Mais on constate qu'avant l'invention de la pellicule 35 mm, on avait des gros appareils. Et donc, dès le 19e siècle, on a des photographes sur les champs de bataille qui prennent le temps de s'installer et qui ne peuvent pas être dans l'instantané, mais donc dans le temps long, dans la pause. Actuellement, on a des nouveaux... des nouvelles manières de photographier la guerre. On voit justement des personnes comme Éric Bouvet qui vient avec sa chambre photographique sur des terrains comme l'Ukraine pour photographier. Donc on a cette volonté, semble-t-il, de vouloir reprendre le temps dans un monde qui va peut-être trop vite, avoir le temps de se poser, de réfléchir. Et donc les journalistes aussi qui sont invités, ou photojournalistes qui sont invités, par les médiathèques de Brest, nous présente justement donc un nouveau visage de ce que pourrait être le photojournalisme dans le sillon d'une des figures maîtresses de cette discipline en France, qui est la figure de Gilles Caron, donc qui a eu même pas 10 ans d'activité avant de disparaître au Cambodge pendant justement la dictature Khmer Rouge.
C'était un photoreporter de guerre. Hein. Lui, vraiment, c'était sa spécialité.
Un photoreporter de guerre, mais qui pouvait aussi photographier Daniel Cohn-Bendit. On connaît justement cette photo pendant mai 68, qui a pu photographier aussi des hommes politiques en déplacement. Donc il y avait ce côté, on est là où il faut pour réussir à répondre à la commande journalistique. Mmh. Aujourd'hui, ça devient un peu plus compliqué aussi, mais enfin ça serait vraiment un sujet,
oui, un sujet
ouais. En tant que tel. Qu'est-ce que le photojournalisme ?
Mais donc là, c'est peut-être pas que du conflit justement, c'est ça. Dans les autres photographes qui sont présentés en expo dans Un œil sur le monde, il y a Marie Magnin, Julien Brigaud, Brice Portolano, Michal Solarski et Elliot Verdier. C'est pas, peut-être pas que de l'actu chaude aussi.
C'est non. C'est quand on regarde notamment les travaux de Marie Magnin, on va être justement dans cette filiation de aujourd'hui. Qu'est-ce que l'actualité? Comment réussir à le traiter? Donc beaucoup de choses autour des questions de migration, entre autres dans son travail, mais pas que. Mais donc un éventail très large de sujets. Quand on regarde du côté de Julien Brigaud, il y a cette dimension où il est presque plus écrivain, journaliste que photographe. La photographie est quelque chose qui va développer un petit peu à côté de ses écrits, notamment pour le monde diplomatique. Donc on a vraiment le photographe aujourd'hui qui est multicasquette, de la même manière que moi, oui, je peux être photographe, mais je suis avant tout ethnologue. Ce qui me porte, c'est une réflexion avec beaucoup de sujets, notamment autour des questions de migration depuis 20 ans que je suis obligé de réfléchir, qui m'enrichissent et que je vais développer aussi de projet, en ayant peut-être, moi, dans ma spécificité, le fait de vouloir travailler avec des personnes dans la plus grande confiance, les associer aussi aux restitutions pour que par la suite des nouvelles activités puissent se mener et qu'eux s'impliquent dans la suite, soit à nouveau donc des éléments pour aller encore plus loin, pour découvrir des nouvelles personnes. Presque invisible, souvent, c'est ce mot qu'on va utiliser souvent, mais qui derrière porte plutôt l'idée de ces personnes à qui on ne donne pas trop la parole ou à qui on va leur donner la parole pour parler d'une chose précise.
Souvent d'un drame. Ouais, c'est ça. Et de toute façon, l'ethnologie, à mon sens, c'est une forme de journalisme long cours, on peut dire, mais c'est quand même. Voilà, hein, c'est... on essaye de s'en tenir aux faits et de. Enfin bon, d'être rigoureux et précis. Alors, dans le cas de Elle est si belle à voir, donc cette exposition qu'on peut voir à la médiathèque Geoffourne, la matière de départ, donc c'est ces ateliers cartes postales. Combien de personnes en tout ont traversé ces ateliers à un moment ou à un autre ?
On va dire à peu près 100 personnes ont traversé ces ateliers, la plupart des personnes étant originaires d'un. Enfin, étant né hors de France métropolitaine, mais d'autres ont pu participer tout en étant né en France métropolitaine parce que, justement, il y a eu les photographes. Les photographes, c'était jamais moi qui prenais les photos des cartes postales. Et c'est eux, ils étaient conseillés, ils étaient choisis par la personne qui choisissait la photographie qu'il voulait faire.
C'est
dans mon entourage, je connais telle personne, c'est lui qui va prendre la photo, soit il vient d'ailleurs, soit il vient d'ici. Donc, eux ont été associés aussi dans la construction globale du projet.
Et quelles sont les nationalités ? Alors, pour avoir une idée, est-ce que vous avez compté,
c'est
par
ça,
exemple
j'avais compté au niveau des nationalités, j'ai un peu oublié, on doit être à une trentaine de... je ne sais plus si c'est 30, 40 nationalités différentes, une trentaine de langues écrites différentes. Là, si on prend... j'ai juste listé les personnes qui ont participé que aux ateliers donc, d'écriture de l'exposition. Donc, on a aussi bien Albertine, une malgache, Zakia de Mayotte, Claudia du Brésil, Mirella de Roumanie, Louisa d'Algérie, Safi du Congo, Mariama du Bénin, Gaoussou de Côte d'Ivoire, tout comme Bassi, Neyma, donc elle, ça va être Djibouti, Jawad, Saïd, Gabriel, Sepinoud, Amir, ils vont être d'Iran, Nouramad, Zaki d'Afghanistan, Amir d'Irak, Bulent de Turquie, Vanessa du Suriname, Oumar, Hassan, Abdoulaye du Sénégal, Marien, Côte d'Ivoire encore. Daniel, elle est calaisienne, mais donc française. Karim du Liban, Aziza du Maroc, Salim des Comores. Donc là, on a déjà 28 personnes différentes et une multitude de langues parlées, de pays différents. On a aussi donc Jean-Yves qui est né donc à Tahiti. Enfin, on a vraiment un panel assez large, tous les continents qui sont concernés.
Bon, et donc là, l'exposition présente 8 panneaux. Donc peut-être qu'on peut les détailler. Du coup,
c'est ça. Au final, donc il y a eu 8 panneaux qui ont été faits à partir de, on va dire, une sélection de 200 photographies qu'ils avaient faites, où on les avait invités à choisir sur ces photographies on va dire entre 5 et 8 photos qui pour eux leur parlaient.
Donc, mais c'était pas
c'était
eux
plus
qui
leurs
étaient...
photos, voilà, forcément. C'est ça, ouais, c'était les photos faites par l'ensemble des personnes qui ont fait les ateliers. Donc, un panel de 600 photos. Nous, on a réduit à peu près 200 photos qui pouvaient être intéressantes. Et à eux de choisir dans ce corpus qu'est-ce qui leur parlait, entre des choses qui leur parlaient déjà, leur carte postale qu'ils avaient réalisée, mais ce que les autres avaient fait. Et ils parlaient en même temps. Et on a eu comme ça 8 thématiques qui ont été plus ou moins évoquées, dont on leur a fait part. Donc une qui était autour de la question des arts dans la ville, avec aussi bien que ce soit les Capucins, une sculpture donc, pour commémorer l'abolition de l'esclavage sur le polder du Mouzlin Blanc. On a un élément extrêmement fort qui est l'océan. L'océan, ça traverse les pays, qu'on soit originaire d'un endroit où il y a la mer ou pas. Soit on découvre la mer, l'océan, soit on la retrouve et on a ce point commun avec ce qu'on constatait dans le pays d'où on venait. Donc on a aussi bien des choses extrêmement nostalgiques. Enfin, on est dans de la tristesse, mais des très beaux témoignages. Là, j'ai devant moi celui de Nour Ahmad, un Afghan qui faisait sa pause. Il était livreur Uber Eats et donc il a été associé comme ça à l'atelier. Il y a participé avec plaisir et il nous a dit donc cette phrase assez merveilleuse qui est « La mer est mon amie. Quand je me sens triste, je peux aller lui parler. »
Et elle répond.
Et donc, c'est ça. Et elle répond. L'écume des vagues, les vagues, donc, sont un écho. Elle est en face de nous. Il y a vraiment une vie quand on est face à l'océan. Et donc, cette phrase, évidemment, est marquée donc, en Dari. Et donc, avec la traduction en français, l'idée était de montrer aussi qu'on a une multitude de langues qui sont parlées, qui sont écrites à Brest. Et qu'en faisant le tour de cette médiathèque, une multitude de personnes pouvaient comme ça s'attarder sur une langue qu'ils connaissent et qui les rapproche qui leur permet de se dire « Ah oui, en effet, je suis estimé, quand je me promène dans le tramway à Brest, peut-être que je peux écouter l'anglais et ça ne me parle pas trop, j'aurais peut-être plus envie, en effet, d'entendre un petit peu de russe, un petit peu de dari, pourquoi pas un peu de créole aussi. » Donc on a ces ouvertures aussi qu'on souhaite donner. Mais pour revenir sur les thématiques, oui, donc après on a la ville de Brest reconstruite.
Ah
ville
oui,
de
la
Brest.
Reconstruction, ça leur
la reconstruction
leur parle.
Entre l'hôtel de ville, cette rue de Siam. On a aussi évidemment le pont de recouvrance. C'est l'emblème de la ville que et, tout le monde
Et cette reconstruction, ça leur parle. Est-ce que ça leur parle parce qu'ils viennent de zones conflictuelles ou pas du tout
De manière complètement différente. On a aussi bien El Mira, je me souviens, donc une personne du Daghestan qui choisit la rue de Siam et qui aimait aussi le monument américain en hommage au débarquement des Américains pendant la Première Guerre mondiale. Son architecture qu'elle va choisir rappelle... étrangement les architectures caricaturales de l'Union soviétique. Donc ces gros bâtiments donc d'une autre construction à échelle massive qui ont eu lieu au cours du XXe siècle.
Donc elle a la nostalgie des bâtiments
donc, staliniens. Sans le dire, au final, on a ces choses-là qui sont derrière. Et donc une architecture peut-être rassurante. Donc on se sent dans son univers, dans son élément. D'autres personnes, donc avec le pont de recouvrance, et cette œuvre, pour certains, c'est quelque chose de magnifique. Au final, c'est comme si on était touriste, sauf qu'on n'est plus touriste parce qu'on habite cette ville et on est fier d'avoir des beaux monuments comme ça, assez immense, je ne sais pas comment, j'ai plus les termes en tête, mais donc il y avait vraiment cette dimension architecturale qui était soulevée. D'autres, ils peuvent nous parler donc de Brest comme une ville, en effet, avec une multitude d'endroits où on peut prendre de la hauteur et avoir des points de vue extrêmement divers sur la ville.
Du relief, c'est vrai.
C'est ça, ouais. Du relief, des monticules qui vont de la place de Strasbourg et son escalier qui ne mène nulle part.
Son escalier.
à la promenade sur la cour d'Ajau. Le cour d'Ajau, on a la vue sur le port de commerce, la passerelle de la gare où justement on a beaucoup de personnes venues d'ailleurs qui passent par ici, étant logées sur le port et qui remontent dans la ville en passant par ici. Et un endroit où on a l'impression de marcher sur l'eau les matins quand la passerelle est encore humide, la passerelle devient bleue. On a ce côté-là qui nous est mis en valeur dans les témoignages. On a d'autres témoignages sur le côté historique, entre la rue de Pontagnou, la tour Tanguy, le cours d'Ajau et son aménagement paysager très fin 19e, début 20e siècle qui reste là. On n'a pas de construction, mais on a un aménagement particulier que justement l'Agdar, qui est photographié dessus, rappelle en disant qu'en Algérie, on a encore ce genre de promenade qui existe dans les grandes villes. Donc voilà, on a tous ces témoignages qui existent dans une multitude de langues, y compris le français.
Quelles sont les langues qui ont été choisies, les huit langues qui ont été choisies alors ?
Les huit langues qui ont été choisies, on va avoir du malgache, on va avoir donc du dari, on va avoir du djiboutien.
Donc le dari, c'est quel pays ?
Donc le dari, c'est l'une des langues officielles de l'Afghanistan, mais qui est très similaire au persan qui va être parlé donc en Iran. On va avoir le djiboutien, donc de Djibouti.
Et c'est ça ressemble à quoi le djiboutien, juste pour savoir?
Le djiboutien, c'est un alphabet latin.
Ah oui, d'accord.
C'est un alphabet latin. Djibouti était français jusqu'aux années 80, je crois. Ouais. Et donc ça s'écrit en français, mais il doit y avoir, donc, je pense, des origines swahili aussi dedans. Je n'ai pas fait les études linguistiques.
Mais c'est ça, en plus, il faudrait être linguiste. Ouais.
Mais par contre, j'étais en échange permanent avec chacune des participantes. WhatsApp a été d'une utilité assez importante pour faire les traductions, avoir les bons mots,
oui,
la bonne graphie.
C'est traduit, on précise, bien sûr. On a, donc, c'est manuscrit, en fait, c'est ça, c'est les personnes.
Et sur les panneaux, c'est manuscrit.
Ouais, voilà, c'est ça, comme ça, on peut voir. C'est des très belles écritures, quand même, hein, dans l'ensemble. Il y a eu un choix là-dessus aussi, peut-être.
On leur a demandé d'écrire d'une manière un peu similaire d'un panneau à l'autre. C'est justement tout l'intérêt de travailler aussi avec une graphiste qui peut aussi dire, pour enjoliver au mieux justement ces témoignages, on peut regarder comment travailler au plus près d'eux, certes, mais en ayant une esthétique commune. Donc, elle pouvait se charger de l'esthétique, d'assembler les photos, les fusionner plus ou moins les unes avec les autres, les faire correspondre entre elles, mais aussi de dire, on peut aussi choisir un stylo particulier pour que l'ensemble des participants écrivent avec un peu le même stylo.
Ouais, et l'épaisseur du trait est toujours la même, quoi.
C'est
ouais,
ça, qu'on ait une épaisseur du trait
parce qu'il
n'y
a pas que des langues, il n'y a pas que des alphabets latins, justement. Qu'est-ce qu'il y a
d'autre? Non, c'est ça, il y a des alphabets latins, il y a un alphabet, l'alphabet géorgien. L'alphabet arabe, et sur le panneau de présentation de l'exposition, donc elle est si belle à voir, on a la traduction comme ça en 20 langues, et sur les 20 langues, on peut avoir du tahitien, du russe, donc encore un autre alphabet. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a l'alphabet arabe qui est utilisé pour 4 langues différentes. Donc, c'est intéressant aussi de rappeler que l'alphabet arabe n'est pas associé qu'à la langue arabe. C'est quelque chose qui est en partage de manière plus large et qu'on a un peu tendance à oublier dans notre monde ethnocentré. Mais pour eux, enfin oui, l'alphabet arabe, chaque participant ne peut pas comprendre ce que dit l'autre avec cet alphabet. C'est comme si on demande à un Français de comprendre de manière univoque le latin, le finnois et l'allemand. Hein.
Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des Européens de l'Union Européenne, par exemple
Oui, il y a des Européens de l'Union Européenne et il y a des alphabets latins, mais venant d'ailleurs. Donc on a aussi bien Mirella, par exemple, qui écrit en roumain, Mais on a également Claudia, donc, qui va écrire le portugais, mais qui vient du Brésil. Oui. Donc, c'est toujours intéressant de montrer que les langues donc, ne réfléchissent pas avant de se déplacer d'un continent à l'autre. Et on a tendance à dire que c'est une richesse d'avoir justement ces possibilités de parler la même langue d'un continent à l'autre.
Oui, ils se comprennent bien, je ne sais pas, les Portugais et les Brésiliens. Non
c'est la même langue, ouais. Oui, c'est ça.
Et donc, tous ces gens, est-ce qu'il y a des points communs, enfin, à part Brest, là, le fait qu'il ou elle aime Brest, je suppose. Enfin, ils aiment en général, ou est-ce qu'il y en a qui détestent Brest, mais combien ont participé ?
Ça dépend des jours, on va dire. Ouais. Mais c'est ça, c'était le principe de la carte postale, c'était leur dire quelle est la vision de Brest que vous avez envie de partager, de montrer à votre famille. Donc, on était déjà dans une disposition de dire qu'est-ce que vous appréciez dans
positive,
Brest.
Positive, oui, bien sûr.
Donc, on voulait leur faire dire, vous êtes capable aussi de vous êtes légitime à parler de Brest et dire pour vous, personnellement, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui fait que vous vous sentez bien. Et donc oui, cette architecture stalinienne dont on parlait, où certains donc l'exècrent, d'autres personnes vont la trouver rassurante, esthétiquement réussie. Et c'est intéressant de se dire que quand ils vont envoyer ça au pays, la personne donc normalement qui reçoit la carte postale devrait dire oh quelle belle ville. Mm-hmm. On a cette volonté derrière. Il y a pas de dérision dans la photographie qui est réalisée.
Et il y a d'autres points communs qui sont ressortis, peut-être, enfin, ou pas, hein. Entre les gens, enfin, dans leur façon de voir la ville,
oui,
les habitants.
Oui, il peut y avoir des points communs et que je continue à voir là sur d'autres reportages photographiques, ateliers photos que je fais avec des jeunes, notamment entre Pont-d'Anezen, Le Valir. Et c'est la question de la nature, la verdure dans la ville.
Ben oui, c'est une question que je voulais poser parce que c'est pas forcément ce qui ressort le plus de... Des panneaux, là, ouais. Mais
en effet, on a ce panneau, justement, où je vois le témoignage de Claudia qui nous dit, enfin, je fais que la traduction en français, mais c'est « À Brest, il y a beaucoup de jardins publics cachés où je peux me promener en toute sécurité. Je suis émerveillé par tant de belles fleurs bien soignées. » Donc, on a cette esthétisation de la nature qu'elle voit et qu'elle va, justement, rechercher, qu'elle apprécie énormément. Et donc, en effet, on a une nature qui est, à certains endroits, recréée, chose qui a évolué aussi en 20, 30, 40 ans. Avant, il y avait peut-être un peu moins de recherche esthétique dans la nature, sur les témoignages que j'ai pu recueillir. Mais beaucoup vont nous dire, le Stangalar, c'est un endroit merveilleux, des chemins côtiers, des endroits où on a un point de vue sur la mer, mais avec aussi de l'aspect sauvage, naturel, verdoyant devant, c'est assez recherché.
Mais on a un conservatoire botanique national, c'est peut-être pour ça aussi.
On a ça, on
je
est...
Sais pas si ils le
savent. On est sur un territoire où il y a un parc naturel régional. Et pas que, donc le parc d'Iroise, il est à côté. Enfin, si ces lieux ont été nommés en tant que tels, il y a peut-être une raison.
Oui, sans doute. Donc, autour de l'expo, il y aura quelques petites rencontres à signaler encore, c'est ça ?
Exactement. Donc, on fait quelques petites lectures, visites d'expositions, certaines organisées, d'autres qui se font plus maintenant au coup par coup. Donc, que ce soit avec le collège Pénarcleuse, que ce soit avec le centre de formation CLPS, qui suivent des jeunes justement qui apprennent le français et qui me disent « Ah, je serais intéressé pour faire une visite d'exposition, mais avec grand plaisir pour justement partager cette expérience où eux ont plus à nous apprendre que nous avons à leur apprendre.
Il y a justement une table ronde aussi sur les... Alors là, il y a trois photographes, dont vous, et Marie Magnin aussi, et Julien Brigaud, le 3 décembre, 18h30, Donnez à voir le monde.
Oui, donc une table ronde justement proposée là par les médiathèques de Brest à l'auditorium de la médiathèque au Capucin pour justement... mettre en partage nos différences entre nos manières d'utiliser la photographie, de vivre avec ou par la photographie.
Alors cette expo, elle est si belle à voir, c'est jusqu'au 8 janvier. Et peut-être que vous avez d'autres projets aussi.
Exactement. Le problème ou l'avantage, c'est que je ne mène pas des projets de manière indépendante les uns des autres. Et ces questions migratoires m'intéressent. Et en faisant ces ateliers, on rencontre des personnes, on se rend compte aussi de cette richesse existante, des évolutions qu'ils permettent sur le territoire, des enrichissements de fait du territoire. Je pense notamment à toutes les activités de plein air récréatives qu'on peut voir dans Brest actuellement. Donc maintenant, en été, on peut avoir des matchs de cricket faits par des Afghans. On peut avoir les barbecues donc, où les Mahorais ne sont pas en reste en termes de performance sur les différents jardins publics de Brest où des barbecues sont mis à disposition. Enfin, on a une multitude d'activités qui montrent justement cette diversité culturelle qui vit et qui apprécie le territoire de Brest pour leurs activités, mais des activités qui rappellent justement ce qu'ils pouvaient faire auparavant au pays, qui fait qu'ils se sentent bien, joyeux, souriants dans ces moments-là.
Bon, donc ce sera ça, les loisirs,
et donc, le prochain thème. Quoi. Les loisirs, et donc les loisirs dans la ville, à la vue de tout le monde également, et donc comment on apporte une petite partie de soi ici, qui enrichit le territoire. Ce sera l'exposition Brest Cosmopolite à la médiathèque des Quatre Moulins, donc à partir du 15 janvier, dans le cadre du festival Plus d'Images.
Très bien, dont nous parlerons certainement aussi sur Radio Évasion. Et en attendant, on peut réécouter cette émission-là sur le site internet de Radio Évasion. Merci Benjamin.
Merci Véronique.